frères et sœurs, vous allez bien? Gloire à Dieu, c'est une belle journée encore. Nous sommes contents d'être réunis à la chapelle du sanctuaire. Hier soir, les filles ont été avec leur école de danse faire du spectacle et on les félicite, c'était magnifique. Et voilà, et ce soir ça continue, tout à l'heure même ça continue, on va avoir encore un spectacle avec... Et les enfants qui vont montrer comment ils ont bien appris à jouer du piano avec notre sœur Simone. Et puis après ça continue puisque nous allons à plusieurs sur Paris pour applaudir notre frère Olivier Navez qui pour la première fois joue en public une pièce de théâtre. On se réjouit, c'est magnifique. On est tout content. Amen, on l'applaudit déjà. Est-ce que vous connaissez le titre de la pièce? Non, moi je ne connais même pas le titre de la pièce. On a oublié, on ne sait plus. On est fixé sur Olivier, voilà le reste. L'auteur de la pièce, c'est Olivier, voilà. On est très fiers en tout cas. Et le théâtre est éponyme, voilà. Olivier partout. Les décors de Olivier. Voilà, tout est de Olivier. Que Dieu le bénisse, je suis sûr qu'il doit avoir le trac là. Hein. Mais bon, voilà, c'est le métier, hein. Amos, chapitre 8, versets 11 à 14, s'il vous plaît. Les jours viennent, déclaration du Seigneur Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils rechercheront la parole du Seigneur en titubant et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens s'évanouiront de soif, eux qui jurent par le sacrilège de Samarie et qui disent « Par la vie de ton Dieu, Dan, par la vie du rite de Bersabée. » Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Amen. Ce matin, c'est un message... Que Dieu vienne en aide à chacun d'entre nous, parce que c'est un message prophétique, c'est un message qui explique, qui démontre comment les prophéties s'accomplissent de nos jours, ce qui est en train de s'accomplir là, en ce moment. Vous savez, je vous prêche toujours, le moment présent, c'est important. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans le moment présent? Beaucoup ignorent ces choses-là, ne savent pas. Et nous voulons connaître et nous nous mettons devant Dieu pour savoir. Alors là, il nous est dit, par la vie de ton Dieu, Dan, par la vie du rite de Bersabée. Alors, Bersabée, en fait, c'est Beersheba, hein, ça dépend des versions. Nous savons que Dan, on l'a appris dans Genèse 49, 17, et aussi dans les Apocryphes, dans le Testament des 12 patriarches, qu'on va bientôt publier aussi sur Révélation Bible, nous savons que Dan est un serpent sur le chemin. Nous savons que le chemin, c'est Jésus. Le diable est monté, n'est-ce pas, sur Jésus, l'a mordu. Mais maintenant, il est dessous parce que Jésus l'a écrasé avec son talon. Amen. Mais quand même, c'est un serpent. C'est un serpent. Et ces jeunes gens ne savent pas. Et ils crient par ton Dieu, Dan. C'est fou, hein, par la vie de ton Dieu. Ils ne savent pas. Qu'est-ce que c'est que le rite de Bersabée? Beersheba ou Bersabée, on va faire un peu d'histoire biblique. Dans Genèse 21, 14, on nous apprend que c'est la ville où s'est enfui Agar. C'est pas brillant non plus. Mais enfin bon, ensuite, il y a eu des choses plus positives. Genèse 22, 31, 34, c'est là qu'Abraham a fait alliance avec un roi qui était son voisin. Ensuite, Dieu est apparu à Isaac, à Beersheba. On trouve ça dans Genèse 26, 23, 24. Et c'est de Beersheba que Jacob est parti pour aller à Haran. Genèse 28, 10. Et puis quand Josué a conquis la terre promise, il a pris cet endroit, Josué 15, 28 ou Josué 19, 2. Alors jusque-là encore ça va, mais à partir du temps des juges, à partir du temps de Samuel, c'était les fils de Samuel qui ont eu la charge d'être juges là-bas à Beersheba ou Bersabée, comme vous voulez, 1 Samuel 8, 2. Et ils avaient un penchant pour l'argent. Ils acceptaient les pots de vin, en fait, ils n'étaient pas justes du tout. Ils faisaient une justice sélective de par l'argent. C'était la corruption est rentrée là. Et au temps d'Amos, eh bien, Beersheba est encore aux Juifs, Mais alors là, la perversion y est totale. Vous voyez, quand il y a le ver qui rentre dans le fruit, ben voilà. Alors Amos, chapitre 5, verset 5, vous voyez, c'est vraiment la cata. Amos, il avait déjà prophétisé sur le peuple qui devait chercher Dieu, le Dieu esprit. Mais pas le Dieu qui se trouve ici ou qui se trouve là. Vous voyez, quand on pense, voilà, il se trouve ici ou il se trouve là, on a vite fait de faire une idole du lieu. Hein, on voit ça dans toutes les religions et même dans la religion juive. On voit que maintenant, ils vont vers le mur des lamentations. Je suis sûr que ça va faire hurler certains chrétiens, mais tant pis, il faut quand même le dire. C'est devenu une idole, ce mur. C'est devenu une idole. Et il y a des gens sincères, mais ça veut pas. C'est quand même pas tout à fait correct. Et Dieu ne voulait pas que on aille chercher Dieu dans des endroits qui, à plus forte raison, avaient mal tourné. Il s'était passé des choses qui n'étaient pas correctes. Il y avait une expression à l'époque, une expression courante au temps des juges, quand on disait de Dan à Bersabé, ça signifiait Israël. C'est un petit peu comme si on vous disait pour la France du nord au sud, Dan à Bersabé, c'était tout Israël. Vous trouvez ça dans Juges 21. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est important. Au sujet maintenant de la Samarie, du sacrilège de Samarie, il y a eu une longue histoire compliquée que vous pouvez lire dans la Bible. La Samarie est devenue finalement l'ennemi d'Israël et Samarie était synonyme de sacrilège. Et les jeunes du peuple, ceux qui ignoraient l'histoire passée ou qui voulaient l'ignorer, juraient par le sacrilège de Samarie, par Dan, le serpent, et par Bersabé, la pervertie. C'est quand même terrible. Maintenant, vous avez des gens qui jurent par Marie, la Vierge, etc., et par Lourdes, et par la Vierge de Fatima, ou que sais-je. C'est infernal. Ils sont sincères, sans doute sincères, mais ils sont dans l'ignorance. Ils sont sincères, mais peut-être pas. Peut-être que c'est simplement qu'ils croient en un Dieu d'amour, qui a oublié, qui a pardonné, qui a levé la malédiction qu'il avait donnée sur un tel lieu. Hein, quand, par exemple, Dieu maudit Jéricho, puis après, tu as l'autre qui arrive, puis qui reconduit Jéricho. Dieu avait dit, je maudis quiconque reconstruira. Sera... Et l'autre, il va, il reconstruit, parce qu'il a oublié, ou il pense que Dieu est bon, puis que voilà, bon, ben, Dieu s'était énervé, mais maintenant, Dieu est tellement bon, même le diable sera sauvé. Vous entendez des chrétiens qui disent ça, hein, que Dieu est tellement bon. Son amour est parfait, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'Amos, donc, parlait et nous décrivait ce qui allait arriver. Ce prophète, il annonce qu'au temps où les gens seraient capables d'errer d'une mer à l'autre, ce n'était pas à son époque. À son époque, on ne errait pas d'une mer à l'autre. On connaissait juste la mer Méditerranée, la mer Morte. Il y avait une grande confusion spirituelle. Il a dit qu'il y aurait une grande confusion spirituelle à l'époque où les gens erraient d'une mer à l'autre et il y aurait une grande famine des choses de l'esprit, mais que les gens ne trouveraient pas. Dieu ne se laisserait pas trouver. Mes frères et sœurs, quand cette prophétie a-t-elle commencé à s'accomplir? Eh bien, elle a commencé à s'accomplir au XVIe siècle. C'est là que, à la fin de l'âge de Sardes, en fait, après la Réforme, c'est là que, au début de Philadelphie, au temps de Wesley, c'est là que ça a commencé les grands voyages vers les États-Unis. C'est là que ça a commencé, les gens partaient du vieux continent pour aller trouver le pays nouveau, l'Amérique, n'est-ce pas? Certains fuyaient l'intolérance de nos vieux pays d'Europe, la persécution religieuse, ils allaient là-bas. D'autres allaient là-bas pour former un monde nouveau avec la franc-maçonnerie. D'autres allaient là-bas parce qu'ils avaient appris qu'il y avait de l'or. Moi, j'ai le frère de ma grand-mère qui avait été chercher de l'or là-bas, c'est un chercheur d'or, et il avait ramené une queue de serpent à sonnette. Là, je devais en hériter, puis c'est ma sœur Josiane qui l'a piqué, donc voilà. Ma cousine Josiane qui l'a piqué. Donc, je ne sais pas si elle l'a toujours, si elle m'entend, il faut qu'elle me la donne, c'était destiné à moi cette queue de serpent à sonnette, non mais des fois. Donc voilà, les gens sont mis à partir là-bas et vous avez Wesley même qui est allé là-bas, il est parti pour aller évangéliser les Indiens. Et puis quand il était sur le bateau, il a vu des chrétiens authentiques. Et il s'est vraiment converti, parce qu'il n'était pas converti, il croyait en Dieu, il aimait les choses de Dieu, mais il n'était pas converti. Puis il est revenu finalement, converti, c'est là qu'il a créé l'église méthodiste, hein, c'était une chose extraordinaire. Et des millions d'églises sont nées, et pas des millions, des milliers, mettons, des milliers d'églises sont nées à cette époque, justement, là-bas, aux États-Unis, et puis ça nous est revenu sur le vieux continent. Et tous prétendent être la vraie Église de Jésus-Christ. Ça veut dire que tous, plus ou moins durement et clairement, condamnent les autres dénominations, et prétendant être dans la vérité. Tous les gens ont soif de vérité à l'heure actuelle, et c'est ainsi que les baptistes sont nés, et ils sont des millions aujourd'hui partout dans le monde. Et ensuite, vous avez les mormons qui sont nés vers 1820, ils sont 11 millions de nos jours. Et puis, vous avez, au début du siècle passé, les assemblées de Dieu qui sont nées, les pentecôtistes, et ils sont maintenant environ 63 millions par le monde. C'est quand même quelque chose d'énorme, en moins d'un siècle. Mais il y a toujours cette soif, même dans ces milieux chrétiens, il y a cette soif. Ils jurent tous par Israël, c'est-à-dire par Dan et Beersheba. C'est le grand signe, c'est Israël. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ils oublient qu'Israël n'est qu'un corps mort et qu'il y a quelque impureté à toucher à ce qui est mort. C'est un corps mort sur lequel la parole prophétique vient, mais sur lequel l'esprit n'est pas encore venu. Voilà ce que c'est qu'Israël en ce moment. Pour le moment, c'est un esprit de mort qui agit là-bas, qui est mélangé avec la parole prophétique d'Ézéchiel. Je voudrais vous lire Ézéchiel 37 pour que vous voyez bien de quoi il s'agit, peut-être si vous ne connaissez pas bien les Écritures. Ézéchiel 37, 1 à 14, on va faire une bonne lecture. C'est Ézéchiel qui parle, il dit « La main du Seigneur fut sur moi, le Seigneur me fit sortir par un souffle et me déposa au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Ils étaient très nombreux dans la vallée et ils étaient très secs. Il me dit, « Humain, ces ossements pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Parle en prophète sur ces ossements. Tu leur diras, « Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur Dieu à ces ossements. Je fais venir en vous un souffle et vous vivrez. Je placerai sur vous des tendons, je ferai pousser de la chair sur vous et je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un souffle, vous vivrez et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur Yahvé. » Je parlais en prophète selon ce qui m'avait été ordonné et comme je parlais en prophète, il y eut un bruit. Il y eut un frémissement, et ses ossements se rapprochèrent les uns des autres, et je constatai qu'il y avait sur eux des tendons. La chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, « Parle en prophète sur le souffle, parle en prophète humain. Tu diras au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, ô souffle, souffle sur ces tués et qu'ils revivent. » Je parlais en prophète, comme il me l'avait ordonné. Alors le souffle vint sur eux, ils reprirent vie et se tinrent debout sur leurs jambes. C'était une très grande armée, une armée immense. Il me dit, « Humain, ces ossements sont toute la maison d'Israël. » Ils disent, « Nos ossements sont desséchés et notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. À cause de cela, parle en prophète, tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, j'ouvre vos tombes, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Ainsi vous saurez que je suis le Seigneur Yahvé, lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous et vous reprendrez vie, je vous ramènerai sur vos terres, et ainsi, sur votre terre, et ainsi vous saurez que c'est moi, le Seigneur Yahvé, qui ai parlé et agi. » Déclaration du Seigneur. Amen. Les os se rapprochent, c'est ce que nous voyons depuis 48. Les os, les muscles se forment, la chair aussi, les tendons, tout ça, ça se reforme. Mais la vie, le souffle, l'Esprit de Dieu n'est pas encore insufflé dans ce corps. Ce corps existe, ce pays existe, cette nation existe, mais ça n'est pas encore l'Esprit de Dieu qui est là-dessus. Alors c'est un corps sans esprit, c'est un souffle, c'est sans souffle que ce corps agit. Et c'est un temps de confusion, c'est la vie et la mort qui sont mélangés là-bas. Et les jeunes gens et les jeunes filles s'évanouissent dans les réunions. Vous voyez, dans l'esprit prophétie, toutes les choses semblent un petit peu mélangées. Mais regardez les choses avec l'esprit de prophétie. Ils ont faim, ils ont soif de justice et ils ne trouvent pas. Ils ont faim de la parole de Dieu. Ils s'assemblent comme des vautours autour d'un cadavre, autour d'Israël, regardant Israël comme le signe incontestable de la venue du Messie. Et ils le font pour accomplir Luc 13, 13 qui dit « Où sera le corps, là s'assembleront les vautours. » Pas les aigles, les vautours. J'étais choqué, je n'avais jamais fait attention, mais dans ma Bible, il n'y a pas de verset 36. Il n'y a pas le verset 36 dans Luc 13. Le verset 37, ça saute tout de suite au verset 37, et il dit, « Ils lui répondirent, où donc, Seigneur ?» Ils vont dire au sujet de quoi ?« Ils répondirent, où donc, Seigneur ?» Et Jésus répondit, « Où sera le corps ? Là s'assembleront les vautours. » Qui pose la question à Jésus ? Ben, c'est les disciples, on le voit dans le verset 22, c'est une conversation qu'il a avec ses disciples. Jésus parle avec ses disciples, il leur disait, « Les jours viendront où vous désirerez voir un seul de ces jours des fils de l'homme et vous ne le verrez pas. » Vous voyez, il était en train de reprendre la prophétie d'Amos, « Viendra un temps de faim spirituelle, vous chercherez à voir mais vous ne trouverez pas. » Vous chercherez à voir un jour des fils du Fils de l'homme et vous ne trouverez pas. Et là, il est ici et il est en train de leur dire ça. Longtemps après Amos, il leur prophétise que ça va arriver. Et il leur dit, certains vous diront, il est là, allez-y, il est là. Et Jésus dit, ne courez pas, n'y allez pas, ne vous émouvez pas avec ça, ne vous émouvez pas avec ça. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, nous sommes arrivés à cette époque. Israël est maintenant une nation, mais ce n'est que le corps encore mort de la vision d'Ézéchiel. Nous ne sommes pas encore arrivés au temps où le souffle de l'Éternel est arrivé en Israël. Il n'y a pas le souffle de l'Éternel en Israël. C'est Dieu qui est en train d'agir là-bas et qui reforme le corps. Mais la vie de Dieu n'est pas encore là. Il y a quelque chose encore d'impur. Et voilà pourquoi il y a toutes ces choses qui troublent le monde. Il faut qu'Israël devienne maintenant une pierre d'achoppement, une pierre lourde pour toutes les nations. Et les gens courent partout parce qu'ils ont soif de Jésus, parce qu'ils ont soif de spirituel. Ils voient la prophétie en train de se réaliser, ils crient Hosanna, Alléluia, c'est merveilleux. Mais Dieu lui-même ne se laisse pas trouver. Les chrétiens sont autour d'un corps mort. Ils se rassemblent là, ils font des grandes conventions, ils font des voyages pour aller voir les lieux où Jésus a marché, ils sont réjouis. Mais ils ont raison, c'est bien. C'est comme ces jeunes gens qui disent par Dan ou par Bersabé. Vous comprenez, c'est pas mal, ils sont sincères, mais ça n'est pas encore le juste, la chose juste. La chose juste n'est pas encore arrivée. Il faut que nous soyons clairs sur ces choses-là. Ils sont en accord autour du corps mort, autour d'Israël, et ils cherchent quelque chose qui puisse les nourrir, qui puisse les réjouir, qui puisse les conforter, qui puisse les rassurer là. Mais Dieu dit, ce sont des vautours. Donnez-moi une explication à ce sujet. Si vous trouvez quelque chose d'autre, il n'y a pas. Il n'est ni ici, ni là. Ça veut dire qu'il n'est ni en Israël, ni de l'autre côté de la mer, là-bas aux USA, où ils sont tous en train de courir après la bénédiction de Toronto, après la bénédiction de Springfield, ou après la bénédiction de je ne sais quoi, de Salt Lake City, ou je ne sais pas quoi. Que sais-je? Les Samaritains, ils contestaient que Dieu se trouve dans Jérusalem. Ils disaient non. Ceux de Jérusalem contestaient que Dieu se trouve dans Samarie. Ils disaient non, ce n'est pas là-bas. Et Jésus, lui, il arrive et il parle avec la femme. Au puits, il dit, l'heure est venue d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Pas seulement en esprit, mais en vérité. Ils veulent adorer Dieu en esprit, mais il faut l'adorer en vérité. C'est-à-dire selon la parole de ce jour, de maintenant. Toutes les religions chrétiennes sont pleines de gens sincères. On est allé avec Michou visiter là-bas à Salt Lake City. Je vous promets, ce sont des chrétiens sincères. Ils ont des doctrines bizarres, mais tous les chrétiens ont des doctrines bizarres. Si vous allez chez les baptistes, ils vont vous dire que les pentecôtistes ont des doctrines bizarres. Si vous allez chez les luthériens, ils vont vous dire que les baptistes ont des doctrines bizarres. Partout, tout le monde a des doctrines bizarres. Et à vos yeux, les autres ont des doctrines bizarres. Mais ne dites pas qu'ils ne sont pas des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu. Et ils sont assoiffés, ce sont des gens sincères, ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent un peu de bruit, un peu de vent, un peu d'émotion, une bonne musique. Là-bas, chez les Mormons, c'est une bonne musique, hein, ça c'est sûr. Hein, des beaux sentiments, ils sont très gentils, c'est charmant, tout ça. Mais Dieu se trouve en esprit et en vérité, il ne se trouve pas dans le vent, il ne se trouve pas dans la tempête, il ne se trouve pas dans tous ces trucs-là. Il se trouve dans la tranquillité, dans la paix, dans les choses de l'esprit, dans la vérité. Et la vérité, c'est sa parole d'aujourd'hui, c'est-à-dire la parole rétablie. La parole de Dieu rétablie. Jésus a dit que les apôtres nous ont dit que Jésus est remonté au ciel, d'où nous l'attendons. Et il reviendra au temps, à la fin, quand les choses auront été rétablies. Et les choses sont en train de se rétablir. Dieu se trouve en ce moment dans sa parole rétablie. Et ils ne la connaissent pas. Et ils ne savent même pas qu'il y a un rétablissement de toutes choses. Ils n'ont pas la clé. Les religieux ont enlevé la clé de la science. Vous trouvez, c'est Jésus qui en parle dans Luc 11, 52. C'est quoi cette clé? Qu'est-ce que c'est cette clé? Jésus dit, vous les religieux, vous empêchez les gens qui cherchent d'entrer et vous n'entrez pas vous-même. C'est une famine, il y a un manque, il y a quelque chose qui manque, une grande famine spirituelle. Il manque la clé. Alors ils s'évanouissent. Ils tombent par terre. Les gens qui s'évanouissent tombent par terre. C'est ça que nous prophétise Amos. Les jeunes gens s'évanouissent. C'est-à-dire ils perdent connaissance. Par manque de connaissance, ils perdent leur connaissance. Par manque de connaissance, ils perdent leur vie, c'est-à-dire l'huile sacrée, l'huile sainte, le Saint-Esprit qui se consume en eux, ils le perdent. Ils perdent leur réserve, ça se consume. On a besoin d'être renouvelés. Les apôtres ont été baptisés dans le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, mais quelques temps après, ils ont eu besoin d'être renouvelés. Être renouvelé, ce n'est pas faire une expérience émotive. Être renouvelé, c'est recevoir la part pour le jour. C'est vrai, mes frères et sœurs. Le type se trouve dans l'histoire d'Israël traversant le désert. C'était chaque jour, il y avait une part qui était là, qui était donnée. On n'avait pas le droit de manger la part d'hier. Elle était pourrie. Ça paraît dur, ce que je dis, mais c'est la vérité. Ces gens-là finiront par ne pas partir dans l'enlèvement, seront complètement endormis, manquant de l'huile nécessaire pour aller à la rencontre du Seigneur. Alors, ils passeront par la grande tribulation. Et pendant la grande tribulation, Dieu sera obligé d'envoyer un ange dans le ciel pour leur prêcher le vrai évangile éternel, total, complètement rétabli, qu'ils ne veulent pas recevoir aujourd'hui. Vous doutez ? Apocalypse 14, 6, 7. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » C'est pendant la grande tribulation. C'est la grande tribulation, et Dieu, dans sa grande miséricorde, envoie encore un ange pour prêcher. Un ange qui leur prêchera l'évangile éternel. Est-ce que vous voyez tout ça, comment ça s'accorde? Est-ce que vous voyez tout ça, comment ça se met en place? Tout cela, ça s'aligne complètement avec l'esprit, avec la vérité, avec la parole. Et mes frères et sœurs, l'évangile éternel, il nous a été donné dans le rétablissement de toutes choses. Ça n'a pas été un hasard. Ça ne s'est pas passé bêtement, humainement. Nous avons ouvert nos cœurs au renouvellement de toutes choses. Nous avons ouvert nos cœurs au rétablissement que Dieu est en train d'accomplir. La vérité, elle a été perdue officiellement au Concile de Nicée en 325. Et il y a un petit reste qui a traversé tous les âges de l'Église dans les ténèbres et de nos jours, qui sont les derniers jours. Dieu rétablit toutes choses en masse. Ça devient quelque chose de grand, ça a la connaissance qui augmente. Il faut que nous entrions de plein pied dans notre héritage. Il ne faut pas que vous trempotiez vos pieds au bord, tout simplement, en vous disant « on est dedans, on est dedans ». Il faut que vous alliez en plein eau, mes frères et sœurs. Il faut que vous engagiez dans ces choses. Après l'ascension de Jésus, les gens ont vécu très, très peu de temps selon les ordonnances parfaites données par Jésus-Christ. Très peu de temps. Ils se sont permis de changer les ordonnances, ils se sont permis de changer les doctrines que les apôtres et Jésus avaient données. Et ça a été vite l'apostasie. Il n'y avait plus de révélation de Dieu, juste des bribes de connaissances anciennes mélangées à des histoires profanes, superstitieuses, et ça a donné les religions que vous connaissez. Les gens, alors ils se sont organisés, certains se sont révoltés, ils ont protesté, comme on dit. Ils sont devenus les protestants, les baptistes, les pentecôtistes, les mormons, les darbistes, tout ce que vous voulez. Ils se sont mis à affirmer qu'ils détenaient eux-mêmes la vérité, mais ils se contredisaient tous. Confusion, querelle, guerre de religion. Voilà ce que ça a produit. Mais Jésus avait prévu. Il avait prévu tout cela. Et il avait prévenu ceux qui écoutent. Il leur a dit, par le prophète Amos, il y aura une famine. Il y aura une famine, non pas une disette de pain ni d'eau, mais une famine spirituelle, un besoin de trouver les choses spirituelles. Il y aura une faim et une soif d'entendre la parole de l'Éternel, l'Évangile éternel. l'évangile parfait, l'évangile complet. Et il avait ajouté, les gens chercheront la parole de l'Éternel, mais ne la trouveront pas. Ils ne la trouveront pas. Pourquoi ? Parce que Dieu ne se laisse pas trouver comme ça. Ce temps a duré, et puis maintenant, une chose nouvelle est arrivée. Les clés qui étaient cachées par les religieux pendant des siècles ont été découvertes, c'est rigolo, par un petit berger, un enfant, c'est-à-dire une personne sauvée, un enfant. Dieu sauve les enfants. Il n'y a pas besoin pour eux de repentance derrière. Ils sont tout de suite sauvés s'ils meurent. Un petit berger enfant qui a découvert les jars dans les manuscrits de la mer morte là-bas. Et puis ensuite, c'était confié à des archéologues. Oh, comme c'est bizarre. Jésus avait dit, si les gens arrêtent de crier Hosanna, Alléluia au Fils de Dieu, c'est les pierres qui se mettront à crier. Qui s'occupe des pierres sinon les archéologues? Ce n'est pas la science théologique qui a découvert les clés. C'est la science théologique qui les a cachées. Mais c'est la science archéologique qui les a trouvées. Amen. Que Dieu soit béni pour cette corporation. Voilà que les paroles sont sorties de la terre. Voilà que l'évangile éternel est sorti de la terre. Des livres anciens qui révèlent ce qui était alors dans la Bible des mystères. Des mystères. C'était comme des pièces de puzzle, vous savez. Vous avez sur une pièce de puzzle un peu de bleu, puis d'orange, puis vous dites, mais c'est quoi, elle va où cette pièce? Eh bien, avec ces livres anciens, le septième depuis Adam, Enoch et toutes ces choses, on trouve, ces pièces trouvent leur place et on commence à comprendre. Dieu est en train de rétablir toutes choses. Amen. C'est merveilleux. Et un peu partout dans le monde, les gens commencent à s'y intéresser. J'ai même vu dernièrement, il n'y a pas longtemps, il y a un an, je crois, à la librairie chrétienne rue de Lille, ils vendent maintenant les manuscrits de la mer morte, la traduction française, les manuscrits de la mer morte dans la collection Pléiade. Mais c'est merveilleux, vous vous rendez compte qu'il y a des gens suffisamment éclairés quand même parmi eux pour oser vendre ça sur les rayons de la Bible. Waouh ! Mes frères et sœurs, étudiez ces choses, elles sont sacrées. Mangez ces livres, dévorez ces livres. Ces livres ouvrent la compréhension. Ces livres nous parlent, par exemple, des conséquences des actes des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Jude parle de ça. Il en parle en connaisseur, il connaît ces choses. Il parlait de ça parce qu'il possédait lui-même ces livres. Mais tout le monde connaissait ces choses dans l'Église primitive. C'est après que les choses ont été de nouveau cachées. Comment est-ce que Jude était-il entré en possession de ces livres qui contiennent ce que Jésus appelle la clé de la science? Comment Jude était-il entré là-dedans? Comment il avait pu avoir accès à ces livres? Les religieux les tenaient cachés dans leur temple. Comment est-ce que Jude, un chrétien, a pu entrer en... Mais c'est tout simple, mes frères et sœurs. Au début du christianisme à Jérusalem, des religieux, des pharisiens se sont convertis. Et alors ces pharisiens, ils ont commencé à comprendre. Et ils ont sorti ces livres des caves du temple où ils avaient été tenus cachés. Ils les ont donnés à Jacques, le responsable de l'église de Jérusalem. Il les a lus. Il les a lus avec les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, Jude, tous les autres. Ils ont commencé à lire ça. Tous les apôtres l'ont lu. Ensuite, ils l'ont enseigné. Ils l'ont cité dans leurs prédications, mais pas seulement dans leurs prédications. Mais ils ont cité ça dans les Écritures, dans leurs livres, dans leurs épîtres. On trouve des écrits d'Enoch dans toutes les épîtres. Mais ça nous est... On ne sait pas. Les gens ne savent pas. Comment sait-on que Melchisédek avait ni père ni mère? Paul le savait, pourquoi? Qui sait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un chrétien qui peut me dire, quelqu'un qui écoute là sur Internet, sur quelle base Paul se basait-il pour dire que Melchisédek n'avait ni père ni mère? Alors les chrétiens vont dire, il a eu la révélation. C'est très bien. Non, il avait les livres où sont racontées ces choses. Comment est né Melchisédek? Enfin, tout, plein de choses. Vous allez me dire, mais c'est pas important que Melchisédek avait ni père ni mère. Bon, d'accord, c'est pas important. Écoutez, réjouissez-vous, il fait beau aujourd'hui. Allez faire une petite promenade au bord du lac, manger une bonne glace, alléluia, les choses sont grasses, c'est super. Nous, nous voulons avoir notre réserve. Nous ne voulons pas mépriser les huiles saintes que Dieu nous a données. Nous voulons avoir notre réserve pour quand Jésus viendra, qu'on ait la lumière nécessaire pour aller jusqu'à sa rencontre. Ils avaient tout cela, ils avaient les livres. Et en 325, les religieux chrétiens cette fois. Avant, c'était les religieux juifs qui avaient mis ces livres de côté. Maintenant, c'est les religieux chrétiens qui ont commencé à cacher ces choses. L'Église catholique qui était naissante, elle a de nouveau caché ses connaissances, caché ses livres. Vous avez tous entendu parler du procès que l'Église catholique a fait au sujet du sexe des anges. Ben, ça vient de là. Tout a démarré là. Ils ont caché ça au grand public et le grand public n'a plus accès pendant 1600 ans, plus accès du tout à ces choses. Mais Dieu le savait, je dirais même que Dieu le voulait. Il l'avait annoncé par Amos, son prophète. Il y aurait une grande soif, une grande famine, mais ils ne trouveront pas. Pourquoi ils ne trouvent pas? Parce que c'est caché par les religieux. Et ainsi, les ténèbres sont revenues sur la terre jusqu'au début du siècle passé. Dieu a commencé le rétablissement de toutes choses au début du siècle passé. Et de nos jours, beaucoup de choses anciennes sont revenues à la lumière du soleil de justice. La lumière brille de nouveau sur ces choses. Nous avons reçu une prophétie par ma mère, vous vous souvenez, vous étiez tous là, qui nous annonçait qu'une parole allait être, une parole allait nous être donnée qui nous aiderait à tenir jusqu'au jour de l'enlèvement. Vous vous souvenez? Ça a été enregistré, j'ai toujours la cassette dans mon coffre. C'est enregistré. Quelques mois plus tard, nous avons reçu les paroles de l'ange de la Odyssée, le prophète majeur de notre époque. Plusieurs choses se sont éclairées, on a compris beaucoup de choses, et puis on a compris là-dedans aussi qu'il y avait des choses que nous devions chercher et observer, des choses sur lesquelles la lumière n'avait pas encore brillé dans les nations. Vous savez, cela est sur notre vitrail ici, dans notre chapelle, la représentation de ces choses, de ces prophéties. Beaucoup de choses sont devenues claires pour nous. Nous avons vu les années passer, nous avons cherché, nous avons trouvé, parce que celui qui cherche, il trouve, celui qui ne cherche pas, il ne trouve pas. Et il dit, mais il n'y a rien à trouver. Mais si il y a, si vous lisez les prophéties, vous allez vous trouver devant des défis et vous allez vous mettre à chercher. Mais si vous ne lisez pas les prophéties, vous n'avez pas envie de chercher, vous ne croyez même pas qu'il y a quelque chose à trouver. Vous comprenez? Nous avons vu les années passer et nous avons trouvé maintenant ce qu'il nous faut, c'est observer et étudier ces choses. Elles nous tiendront fermes jusqu'au retour de Jésus, c'est ce que la prophétie avait dit. Les choses sont là. Elles sont la réserve d'huile sacrée qui manque aux vierges folles qui sont en train de courir partout, à Jérusalem, en Amérique, pour aller prendre un peu l'onction qu'il y a là-bas. Et on ramenait un petit bout ici en France en pensant que ça va prendre comme une mayonnaise. Mais ça ne prend pas. Ils ne sont pas éclairés. Veillons à ne pas tomber dans leurs conditions. Il n'y a rien de plus facile quand on est haut que de redescendre. Lisons chaque jour. Méditons. Parlons ensemble. Entretenons-nous de ces choses, de ces textes sacrés. Ils sont là. Ils sont à votre disposition. Ils ne sont plus cachés dans les bibliothèques secrètes du Temple de Jérusalem, ni dans les caves secrètes du Vatican. Ils sont là, sur vos tables de nuit, dans votre ordinateur. Nous les avons publiés sur Révélation Bible. Et dernièrement, on a publié ça en bouquin, en livre. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont aidés financièrement pour la publication de cela. Et prions pour que des moyens financiers nous soient encore accordés pour qu'on puisse le publier davantage, que nous puissions le donner, l'offrir. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un que nous connaissons dise « je ne savais pas ». Déjà ça. Et puis à tous les autres. On ne connaît pas tout le monde. Mais au moins ceux que nous connaissons, il ne faut pas qu'ils puissent dire « mais je ne savais pas ». Cela serait sur nos mains au jour du jugement. Nous sommes des porteurs de lumière pour notre jour, mes frères et sœurs. C'est-à-dire nous portons nos lampes, il y a l'huile dedans, il y a la lumière. C'est un honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité. Parce que le monde a faim, le monde a soif de la parole de Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, daigne confirmer ce que nous prêchons par des signes, des miracles, des prodiges. Alors, que ceux qui ont des yeux pour voir, qu'ils puissent voir. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, puissent entendre. Et puis que nous puissions marcher ensemble d'un seul cœur, d'une seule âme, pour faire la volonté de Dieu, qui est importante. Vous vous rendez compte de ce qui nous est confié? Le septième depuis Adam, Enoch, un livre magnifique. À qui cela a été-il confié? Combien de chrétiens s'occupent de ces choses? Non. Ils courent à gauche, à droite pour chercher un petit bout d'onction qui va les faire s'évanouir. Quelle tristesse, mais aussi quelle joie, mais quel honneur, mais quelle responsabilité. Mes frères et sœurs, si c'est faux ce que je vous dis, ma foi, j'y suis pour rien, je ne m'en rends pas compte. Mais si c'est vrai ce que je vous dis, mettez-vous devant Dieu, priez pour savoir si c'est vrai. Le Dieu de vérité vous le révélera. Moi, je sais que c'est vrai. Priez pour que Dieu vous montre si c'est la vérité. S'il ne vous montre pas que c'est la vérité, vous êtes dégagé. Et priez et que Dieu vous réponde. Dieu vous répondra. Dieu est vivant. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur de nous aider à remplir notre rôle de ceux qui diffusent la parole de Dieu et qui montrent cette lumière et qui fait connaître ces vérités qui ont été tenues cachées par les religieux de tout temps. Merci Seigneur de nous avoir trouvés dignes de le faire. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen.